Woodstock Express. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble dans Bulle en stock express pour découvrir les univers graphiques que j'aime partager avec le plus grand nombre et du coup, Bulle en stock cette fois-ci sera Bulle en stock express spécial bande dessinée. J'ai beaucoup de retard dans mes lectures mais je vais essayer de rattraper toutes ces émissions. Bulle en stock, vous savez, c'est de la bande dessinée, c'est du jeu de société. C'est du manga et là donc on va faire des émissions spéciales à chaque fois maintenant, un épisode plus court mais qui permet de présenter un seul sujet. Émission bande dessinée aujourd'hui et donc on commence tout de suite.
Chronique bande dessinée.
Allez, on commence tout de suite par le gros coup de cœur qui est sorti donc aux éditions Glénat, ça s'appelle Mickey et le roi des pirates. C'est un scénario de Joris Chamblin, des dessins de Dave et c'est comme je vous disais dans la collection Disney de chez Glénat. Vous savez que depuis un certain temps maintenant, plusieurs années, donc des auteurs de bandes dessinées franco-belges ont eu la possibilité de faire des histoires inédites de Mickey, Donald et tous les univers que vous connaissez de Disney, en tout cas autour de Mickey et Donald. Évidemment, on va retrouver tous les personnages emblématiques dans certaines histoires, où des fois ça va être centré plutôt sur un personnage. Ici, dans Mickey et le roi des pirates, déjà vous avez un chef-d'œuvre graphique, absolument. C'est magnifique, il y a plein de références dans le livre et en plus on voit l'amour que porte Dave au personnage et à l'univers Disney, parce qu'on a plein de choses qui nous rappellent cet univers et en plus on voit le respect qu'il y a dans la mise en dessin des personnages principaux. Vraiment, on est sur un sublime album. Graphiquement, déjà, vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit. Mickey et le roi des pirates, en plus, scénaristiquement, on va retrouver la plupart des grandes figures du monde de Mickey. Donc, on va avoir Mickey, Dingo, Picsou, Patibulaire, Donald, évidemment, Pluto aussi qui va être là. Et on va en plus voir d'autres personnages de cet univers qui vont arriver, peut-être moins dans le premier plan en tout cas, mais qui vont arriver. Et du coup, c'est un pur bonheur de découvrir page après page justement tout ce qui va arriver. Mais alors, de quoi ça parle? Et où est-ce qu'on est exactement? On est dans cet univers, donc dans cet album plutôt, à Londres en 1850. Picsou a perdu son sou fétiche. En tout cas, on lui a volé, on lui a dérobé. Et là, évidemment, le drame fait que tout ça va enfoncer toute la ville dans le chaos. Picsou a à peu près tout ce qui se rapporte à la ville. Et puis, du coup, petit à petit, ça, on va voir qu'il va y avoir des usines qui vont fermer. Et donc, Picsou, lui, apparemment, ça ne le dérange pas trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas l'air de trop s'en faire et c'est très spécial. Il a un comportement qui n'est pas du tout le même, surtout depuis qu'il est reparti. À un moment donné, il a disparu et là, on l'a vu revenir sur un bateau dans le port de Londres. Mickey, lui, est journaliste et il va devoir et surtout vouloir enquêter avec Pluto sur un petit peu comment a disparu ce sous-fétiche et qu'est-ce qui se passe exactement derrière. Il va pour cela aussi rencontrer Dingo qui lui a eu une mission. Il va devoir aller l'autre côté, prendre la mer et aller dans les îles lointaines de Londres. Donald, lui, il a peur parce que du coup, il a peur des représailles. Lui, c'est l'héritier de son oncle, de Picsou. Et donc, il veut fuir, lui, Londres. Et les voilà partis, tous quatre avec Pluto, vers des aventures à travers les océans, à travers plein de choses. En effet, beaucoup d'événements vont se dérouler, beaucoup de surprises vont nous être proposées et vraiment, on n'est pas au bout de nos surprises, de nos peines, de plein de choses. Il y a plein de réjouissances lorsque l'on va commencer à lire l'album. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Il y a des personnages qui vont arriver qu'on soupçonne, certains comme je vous disais Patibulaire par exemple, mais d'autres aussi. Donc, je ne vous révélerai pas exactement pourquoi ils sont là, pourquoi ces personnages sont là et pourquoi on va les découvrir. Parce que j'ai pas justement envie de vous raconter l'histoire, j'ai envie que vous passiez un aussi bon moment de lecture que moi j'en ai passé pour pouvoir découvrir tout ça. Si vous êtes fan de Disney, de l'univers Disney, vous avez plein de références qui sont dans l'album. Et puis vous avez aussi des personnages qui ne sont pas, qui sont liés à l'univers Disney, mais qui ne sont pas de l'univers Disney. Je m'explique. Regardez juste le nom du marin qui va prendre les petits, qui va prendre Mickey plutôt et Dingo et Donald, donc pour les faire traverser les océans. Vous allez voir son nom. Et du coup, vous allez comprendre que, voilà, si vous avez la référence, c'est le nom, en gros, d'un dessinateur très connu qui faisait les Baby Disney. Et donc, du coup, vous allez avoir comme ça plein de références. Il y a plein de petites subtilités dans le graphisme, dans le dessin. Il y a plein de petits easter eggs, comme on dit, plein de petites choses cachées, des petites scènes qui sont souvent deuxième ou troisième plan et qui nous rappellent un autre film de Disney. C'est vraiment réjouissant, c'est-à-dire qu'on va lire une fois l'histoire. Alors déjà, graphiquement, c'est superbe, comme je vous disais, mais les couleurs sont sublimes. Les couleurs sont sublimes, mettent une ambiance à chaque fois, dans chaque planche, complètement différente, parce qu'au début de l'album, on est en plein hiver, il y a de la neige, etc. Il fait sombre sur l'ombre. Sur Londres, c'est magnifique. Ça nous rappelle un petit peu le Noël de Mickey que vous connaissez. C'est avec les Scrooge, vous vous rappelez de cette histoire de Dickens. Ben, on est un petit peu dans un conte de Noël, voilà, de Dickens, mais vu façon Disney, qui s'appelait donc le Noël de Mickey. Et on est un peu dans cette ambiance très sombre, très froid. On ressent le froid, etc. Les couleurs sont sublimes. Et petit à petit, bah, quand ils vont arriver dans les îles ensoleillées, etc., où on va avoir beaucoup de références à Pirates des Caraïbes, mais pas obligatoirement le film, parce que le film est tiré d'une attraction de chez Disney. Et donc, il y a des références à l'attraction Disney dans l'album. C'est plutôt, voilà, les attractions Disney que Dave a mis en avant dans ces scènes-là, et Chamblin aussi, Joris Chamblin aussi, évidemment. Mais pour graphiquement, en tout cas, c'est ça ses inspirations à Dave, c'est vraiment ça qu'il a pris. C'est, voilà, plein, les couleurs là sont vives, les couleurs sont chatoyantes, sont chaudes et sont magnifiques aussi. Donc les ambiances sont superbement bien mises en place. On a vraiment une impression de froid, de chaud. Tout est beau, tout est vraiment beau. Et on va lire une première fois l'album, ce que j'ai fait, parce qu'on est pris dans l'histoire qui est très bien menée, qui a une fin. Et on espère, pourquoi pas, une suite. Ce serait génial, parce que là, vraiment, c'est pour moi un des meilleurs albums de cette collection Disney et dans l'univers de Mickey et Donald. C'est vraiment, pour moi, un des meilleurs. Là, peut-être même le meilleur. Il y en a un ou deux que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas dire que c'est le meilleur, parce que peut-être que c'est de là le sublime. Mais en tout cas, là, vraiment, c'était génial. Donc, on lit la première fois l'album, on est tellement pris dans l'histoire qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et puis, en fin de compte, pendant la lecture, on va voir des petites scènes, on se dit « ah oui, ça, ça ». Mais on n'a pas envie d'être empêché dans la lecture du scénario. On reprend l'album et puis on commence à relire peut-être moins le scénario parce qu'on connaît l'histoire, mais aller voir un peu plus les détails dans les décors. Et on en retrouve encore après. On en retrouve après et c'est génial. C'est génial, c'est vraiment un album qu'on peut lire plusieurs fois parce que, justement, le scénario nous prend en haleine, nous tient en haleine. Et ensuite, bah, nous amène vers une histoire qui est pas sans queue ni tête, loin de là, mais au contraire très structurée et qui est un hommage vraiment au Disney que l'on peut connaître, les vraies histoires de Disney, la bande à Picsou et ainsi de suite. On est vraiment dans la vraie aventure avec tellement de références que les deux, trois lectures ne dérangent pas pour au contraire trouver tous les petits easter eggs, toutes les petites références, tous les petits Hayden Mickey, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est ce que m'a expliqué un peu Dave, les petits Mickey cachés un peu partout. Sur la couverture, il y en a un, mais il est assez visible, celui-là. Mais regardez, et vous allez voir, de toute façon, l'ambiance de la lumière qu'a mis Dave dans ses couleurs est impressionnante. Regardez juste la couverture avec le flambeau que tient Dingo, qui illumine Patibulaire juste au-dessus. Rien que ça, déjà, c'est sublime. La couverture, déjà, elle est très très belle, avec la vieille carte que l'on voit. Et puis plein plein de choses, quoi. Moi, je n'ai qu'une envie à chaque fois que je referme l'album, c'est allez, il y a des trucs que je n'ai pas vus, je suis sûr que j'en ai oublié. Ce serait bien, par contre, à un moment donné, qu'on arrive peut-être à dire à ça à Dave, ça peut être intéressant de. Peut-être à un moment donné, quand l'album sera bien posé et qu'il y aura beaucoup de choses déjà de dites dessus, pourquoi pas faire un petit répertoire de tout ce qu'il fallait trouver. Ça peut être marrant à faire pour voir si ça fait un peu album de jeu aussi en même temps. Parce qu'il y a tellement de références dans l'album que c'en est génial. Vraiment, c'est un coup de cœur, mais énorme, 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 énorme. Les émotions passent en plus parce que, comme je vous disais, toute la partie un peu hommage à Noël de Mickey, ben, c'est assez sombre et c'est assez triste et on ressent la peine des personnages, on ressent le côté sombre de l'univers. Et puis petit à petit, on va avoir des grosses doses d'humour, on va avoir du suspense, on va avoir voilà, vraiment des ambiances à chaque fois. Et tout est bien, tellement mis bien en scène que voilà, les émotions, elles passent vraiment. Et pourtant, c'est du Mickey, comme je vous disais. Mais voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ce genre d'album, que ça me surprenne, que ça me donne des références. Mais même si vous n'avez pas toutes les références, on s'en fiche, vous allez passer un très bon moment de lecture. C'est ça qui est fort aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir la référence de ce fameux marin qui s'appelle Claude. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Pour vous, il s'appelle Claude, c'est un marin, c'est tout. Si vous connaissez Claude Marin, par contre, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de le découvrir. Mais c'est génial, voilà, des petites choses comme ça qui vont permettre à ceux qui sont grands fans de cet univers d'avoir plein de petites choses à se mettre sous la dent, mais en même temps à ceux qui connaissent moins et qui n'ont pas envie obligatoirement justement d'avoir toutes ces refs, de passer un très bon moment de lecture dans un très très bel album qui change d'ambiance au fur et à mesure de l'album et qui change aussi d'univers. Il y a du fantastique qui va arriver à un moment donné, mais je vous en dis pas trop comme je vous disais parce que je n'ai pas envie de vous gâcher ce moment de lecture vraiment savoureux, un pur bonheur de lecture. Ça s'appelle Mickey et le roi des pirates. Grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en stock. C'est de Joris Chamblin au scénario. Merci Monsieur Chamblin, merci Dave pour les dessins. C'est aux éditions Glénat dans la collection Mickey. Et puis ben voilà, c'est juste absolument un album à avoir dans sa BDTech. Vraiment un pur chef-d'œuvre graphique et scénaristique qui est vraiment très très bon. J'ai une petite musique juste pour après cette chronique, mais la musique elle va avec, ne vous inquiétez pas. Quelques comics qui sont sortis et dont je vous donne juste bah justement le fait que ça soit sorti, un petit résumé. James Aaron et Dave Stewart ont fait par exemple Ultra Mega. Ultra Mega, c'est le deuxième tome et dernier tome aux éditions Delcourt. Il y a des kaiju qui sont une forme d'extraterrestre qui dévastent toutes les planètes dans l'univers et ils en sont pris justement à la Terre. Donc pratiquement toute la Terre est devenue un désert, un énorme désert. Mais il y a un pouvoir qui a été quand même conféré aux humains qui s'appelle Ultra Mega. Et il y a trois humains qui s'en sont emparés et qui donc deviennent très très grands, très forts, deviennent des géants. Ils sont capables de déclencher des coups de poing en particulier dont la puissance est supérieure à une frappe de bombe nucléaire. Mais pour autant, ils n'ont pas réussi à vaincre les kaiju, et là un enfant dans ce deuxième tome, un enfant va acquérir le pouvoir. Est-ce que lui va pouvoir sortir de ce chaos, la Terre? C'est ce que vous allez découvrir dans Ultra Mega. Si vous avez lu le premier tome, évidemment, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Il faut lire les deux tomes pour pouvoir avoir l'histoire complète, mais c'est plutôt impressionnant graphiquement. On est vraiment avec plein de personnages Et c'est assez brut, assez fort, assez dense. C'est plutôt agréable à lire et vraiment, par contre, lisez les deux tomes en même temps pour avoir l'intégrale parce qu'évidemment, vous allez avoir des petites choses autrement qui vont vous être... vous n'arriverez pas en tout cas à comprendre certaines petites choses, certaines petites subtilités en lisant seulement le tome 2. Mais en tout cas, le tome 2 de Ultra Méga est sorti aux éditions Delcourt et ça clôt carrément l'ensemble de la série. Et dans ce deuxième comics dont je vais vous parler, Murder Falcon, c'est de Daniel Warren Johnson, scénariste et dessinateur. Là, on est sur un délire aussi, donc invasion extraterrestres encore sur la Terre. Et puis bah, Jake, qui est un musicien, un fan, il a un groupe de musique. Bah, du coup, à cause de cette invasion extraterrestre, son groupe de musique est dissous. Il n'a pas de copine en plus. Il n'a aucune perspective d'avenir réjouissante. Donc voilà, à un moment donné, il en a un peu ras-le-bol, mais il rencontre Murder Falcon. Et Murder Falcon, c'est un envoyé du Heavy pour détruire le mal. Mais il a besoin de quelqu'un pour mener sa mission. Et du coup, si Jake déclenche une tempête musicale, bah peut-être qu'ils arriveront à vaincre les monstres qui vont envahir la Terre. Et donc, les voilà donc dans une folie assez douce, avec pas mal de bastons, pas mal de coups donnés, de la musique en fond à chaque fois. C'est drôle, c'est original en plus dans sa façon de mettre en scène. Plein de petits détails dans les graphismes. C'est plutôt agréable et surtout c'est un récit complet. Donc du coup, Murder Falcon, vous n'allez pas perdre votre temps à avoir plusieurs tomes pour avoir l'histoire complète. C'est une histoire qui était déjà sortie et là cette fois-ci c'est une édition augmentée qui contient un cahier avec les couvertures alternatives de chaque numéro et des explications sur les disques mythiques de métal auxquels elles y font référence parce que lorsque c'est, vous savez, les comics aux États-Unis, ce sont des livrets à chaque fois qui sortent. Et donc, chaque couverture est différente. Nous, on a l'intégrale la plupart du temps qui sort aux éditions Delcourt et autres. Urban Comics, par exemple. Et ben dans Murder Falcon, là, on va avoir comme ça l'ensemble des visuels qui ont pu être utilisés pour les différents comics aux États-Unis, qui sont des fois en plus faits par d'autres dessinateurs que celui de la série. Plutôt par hommage et puis par... Ça se fait beaucoup. Murder Falcon, du coup, aussi aux éditions Delcourt. Et puis là, c'est un ovni aussi. On va encore parler d'ovni. Mais là, ce n'est pas une invasion. Là, c'est un ovni, comment dire, de livres. Parce que ce n'est même pas que un album de bande dessinée. Il y en a un peu dedans, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça s'appelle « La lune et le serpent, le grand livre de la magie ». Alors c'est par Steve et Alan Moore au scénario, à l'écriture. C'est un ouvrage qui fait plus penser à un grimoire. Déjà rien que visuellement, Delcourt a mis les effets dessus qui permettent de faire croire quasiment à un grand livre de magie que l'on va ouvrir et découvrir petit à petit. Il y a des dessins de Steve Parkhouse, Ben Winkley, Rick Veitch, John Goulthard et Kevin O'Neill. Et donc, comme je vous disais, c'est chez Delcourt. On a donc déjà plusieurs dessinateurs donc, qui vont avoir des graphismes différents. Donc ça, c'est pas gênant. Et surtout, deux auteurs qui sont partis sur l'histoire de la magie à travers le monde. Mais pour eux, ils vont aller beaucoup plus loin parce que la sorcellerie va rentrer dedans. Ils vont partir sur la mythologie, comme par exemple Circé, personnage mythologique, et donc serait une première magicienne fictive de la littérature. Bacon, qui est un philosophe qui a étudié à Oxford, est un des inventeurs de la méthode scientifique. Il croit en l'astrologie, en pratique de l'alchimie. Paracels, John Dee, Eliphas Lévy, Harry Smith, Aleister Crowley, Arthur Edward Waite et Elena Blavatsky, qui sont des personnages que l'on va donc rencontrer au fur et à mesure de notre lecture. Alors, c'est un pavé, il y a 352 pages, c'est absolument un objet, c'est un grand livre, une grande encyclopédie un petit peu. Mais après, il y a beaucoup d'imagination aussi. Et donc, comme je vous disais, il y a beaucoup d'enluminures, il y a beaucoup de dessins qui vont donc se faire référence au texte, mais il y a beaucoup, beaucoup de textes. Donc, il faut bien savoir que c'est vraiment un livre illustré. Et comme Alan Moore et Steve Moore sont aussi des scénaristes de bande dessinée, de comics, évidemment, il y a aussi des petites planches de comics, des parties de comics. En tout cas, il y a aussi du comics. Mais il n'y a pas que ça. C'est même pas la totalité de l'album n'est pas du tout là-dessus. Donc, du coup, c'est vraiment un objet à découvrir. C'est assez fou. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à être fait, plus d'une vingtaine d'années quasiment. En plus, Steve Moore est mort entre-temps pendant la conception du livre. Donc, Alan Moore l'a fini avec d'autres dessinateurs aussi. Parce que je crois que c'est Steve Parkhouse qui est décédé, qui lui aussi était le dessinateur principal de base. Donc, il a fallu vraiment pas mal de temps pour que cet ouvrage arrive à son bout. Mais c'est assez impressionnant. Et puis, Delcourt lui a surtout fait un superbe écrin. Le livre est beau, ça impressionne, ça donne envie de plonger dedans. Par contre, le lire tout d'un coup, je pense que ça peut devenir assez indigeste. C'est un petit peu un livre où on pioche, moi, je trouve. Mais c'est par époque, donc on va voir l'évolution par époque. Ça s'appelle « La lune et le serpent, le grand livre de la magie » de Alan Moore et Steve Moore. C'est aux éditions Delcourt. À vous de découvrir si ça peut vous plaire. Dernier petit comics pour la route, Rat City, le tome 1, c'est par Erika Schultz et Zé Carlos. Erika Schultz au scénario, Zé Carlos au dessin. C'est aux éditions Delcourt et c'est une série dérivée d'une autre série très très connue, évidemment, c'est Spawn. Spawn de McFarlane. Là, on est dans Rat City, c'est un quartier du Bovry dans lequel s'était replié Spawn à un moment donné. Et on suit toute une. On est dans le futur. Donc on est dans la science-fiction cette fois-ci. On a une ville qui ressemble entre New York et le Los Angeles de Blade Runner, un monde dominé par une multinationale qui a mis au point des prothèses cybernétiques qui s'appelle Pharmatech, Pharmatech Solution exactement. Et donc elle domine vraiment le tout parce qu'elle a créé en plus des robots, des armures de combat. Et donc, du coup, évidemment, elle a réussi à créer une sorte de milice qui va défendre leurs intérêts. Et on va suivre Peter Kern, qui est un ancien soldat, lui, qui a été greffé, mais dont les greffes n'ont pas obligatoirement très bien marché. Donc, il a plus les capacités qu'il avait avant. Mais un jour, son système de prothèse est transformé parce que les nanites qui la composent sont affectées par un pouvoir que Spawn, Al Simons, a diffusé en 2019 qui s'appelle le Blackout. Donc c'est de là qu'arrive maintenant cette nouvelle histoire. Évidemment, si on n'a pas lu Spawn, il n'y a pas de souci parce que du coup là on reprend dans une autre période complètement parce que là on est en 2107, alors que c'était en 2019, donc c'est 100 ans après quasiment. Et donc, il n'y a pas trop de problèmes. C'est encore une série dérivée de Spawn. Si on aime cet univers, si on aime... là, du coup, on part sur de la science-fiction, mais toujours avec les mêmes éléments un petit peu horrifiques, même si là, le personnage, lui, a une partie de son corps qui lui permet d'avoir les pouvoirs de Spawn, non pas tous les pouvoirs mais certains pouvoirs. Rat City, du coup, si vous aimez l'univers Spawn et Matt Farlane, évidemment vous allez beaucoup beaucoup apprécier. On part maintenant sur de la bande dessinée un peu scientifique parce qu'il y a 2-3 albums qui sont sortis qui parlent de science. Par exemple, Voyage dans l'infiniment grand, c'est une bande dessinée d'après Théo Drieux, qui est un youtubeur scientifique de vulgarisation scientifique et qui est mis en dessin par Julia Mamon. Et c'est aux éditions... je vais vous retrouver ça, Delcourt. Alors, Julien Drieux essaye de nous présenter... Théo Drieux, pourquoi Julien? Il a changé de prénom entre-temps, donc Donc Théodrieux nous présente donc les voyages dans l'infiniment grand parce qu'on va partir de ce que nous on peut observer, de ce que vous pouvez observer sur Terre, c'est-à-dire déjà la comparaison entre les animaux. Donc évidemment entre une petite mouche et puis un éléphant, il y a une comparaison de taille évidemment que l'on va pouvoir différencier. Et petit à petit, on va se dire nous on est sur la Terre, donc on va réussir à évaluer à peu près la taille de la Terre, mais on va évaluer aussi la distance qu'il y a là par rapport à d'autres astres, comme par exemple la Lune. Donc combien de temps il faudrait pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Et puis après, on va voir que on va parler du Soleil, par exemple, où là, évidemment, la Terre tourne autour du Soleil, mais c'est de plus en plus grand, évidemment, donc par rapport à notre Terre, évidemment, on est tout petit, même par rapport à d'autres planètes de notre système solaire, mais le système solaire n'est rien par rapport à tous les autres univers qui sont autour. Et donc, on va petit à petit partir d'une simple observation sur Terre des différences entre les animaux pour aller de plus en plus lointain. Et là, ça va devenir de plus en plus complexe aussi. C'est de plus en plus complexe parce que certes, on comprend la vulgarisation, mais au début, c'est des choses assez simples à comprendre, qu'arrive à bien vulgariser Théodrieux. Donc du coup, on arrive à cerner un petit peu l'idée, à cerner un petit peu ce qu'il en est, mais petit à petit on va arriver sur des choses beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus complexes, des notions beaucoup plus complexes à comprendre et à mettre à découvrir. Donc un petit repère scientifique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc il vaut mieux pour la deuxième partie en particulier, lorsqu'on va partir dans des confins en dehors de notre système solaire et du coup d'aller de plus en plus loin dans l'horizon cosmologique avec l'effet Doppler et ainsi de suite, là on va commencer à devoir s'accrocher. Et il est certain que ceux qui ont fait des études scientifiques, qui ont étudié un petit peu tout ce qui était l'espace, etc., vont avoir beaucoup plus de facilité. Les autres, j'ai un peu peur que ça les décroche un petit peu, et c'est un petit peu le dommage parce que du coup l'idée est très intéressante. Maintenant il y a beaucoup de pages, peut-être qu'il aurait fallu vulgariser encore un petit peu plus, je trouve, avec un petit peu moins de pagination, et peut-être aller un peu plus essayer de trouver des idées un peu plus faciles pour essayer de comprendre en particulier les notions les plus complexes. Maintenant, ça reste un ouvrage de vulgarisation, comme je vous disais, mais aussi didactique. Donc, du coup, à vous d'essayer de vous plonger. Si cet univers vous intéresse, l'univers de l'univers vous intéresse, évidemment, Voyage dans l'infiniment grand va pouvoir être vraiment un bel album pour vous, parce qu'il est plutôt bien illustré. Après, c'est pareil, une fois qu'on est dans les planètes, dans l'espace, on n'a pas grand-chose à dessiner à part des planètes et de l'espace. Donc du coup, on est un petit peu aussi bloqué dans le côté graphisme. Maintenant, le livre en lui-même est très beau. Donc du coup, ça peut vraiment attirer pour ceux qui aiment ce sujet. Et pour rester dans l'univers, pour rester dans l'espace, deux albums qui sont sortis coup sur coup, le tome 5 et le tome 6 d'une série que je n'avais pas vu passer pour l'instant, Système solaire. Système solaire va reprendre au fur et à mesure des albums la visite du système solaire par un vaisseau extraterrestre. Une équipe de scientifiques terriens poursuit sa mission d'exploration. Et donc le cinquième tome, c'est Neptune, la géante des confins. Et le sixième tome, c'est Vénus, la fournaise, acide. Alors pour le tome 5, on a Bruno Le Signe au scénario, comme pour le tome 6. Et c'est Federico Dalloccio au dessin pour le tome 5. Et le tome 6, c'est Afif Khaled et Xavier Dujardin, qui sont tous les deux au dessin du tome 6, Vénus. Alors, c'est un petit peu pareil que l'album précédent, c'est que là on est sur aussi une présentation, même si on a une histoire un petit peu avec ces personnages qui vont aller visiter les différentes planètes, Mais on a du coup des scientifiques dans ce vaisseau et donc on a aussi des relations entre les différentes personnes. Donc c'est un petit peu différent de l'album précédent. Là, on est sur une sorte de voyage avec des contraintes, avec des petits problèmes qui vont arriver évidemment. Mais le but, c'est quand même de présenter le système solaire d'une autre façon et d'avoir vraiment des informations très scientifiques et mais très didactiques aussi dans ces deux albums. C'est sympathique à lire. Maintenant, voilà, il faut vraiment apprécier le thème. Si vous appréciez le thème, le contrat est rempli. C'est bien le système solaire qu'on nous présente d'une façon assez originale, avec une aventure. Et du coup, c'est à vous de découvrir si ça peut vous intéresser. Ça s'appelle donc Système solaire. Le tome 5 et le tome 6 sont sortis. Cette fois-ci, dans cette nouvelle BD, on va être sur une adaptation d'un roman. Un roman de Bérangère Cournu, qui a eu le prix FNAC 2019, prix du roman FNAC, et Libre à nous 2020. Ça s'appelle « De pierre et d'os ». C'est mis en enluminure quasiment, enfin superbement bien dessiné par Jean-Paul Krasinski. Et c'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. On est cette fois-ci dans un autre univers encore que le plus grand, mais on est dans un univers glacé. On est dans le pays des Inuits et on va suivre Uxuralik, qui est une jeune femme qui à un moment donné donc se réveille. Elle a très très mal au bas-ventre. Elle sort de sa hutte. Il fait très froid. Ça lui fait un peu plus de bien, le petit froid, etc. Et à un moment donné, elle sent que la glace va se briser et elle va dériver sur un morceau de glace. Et là, elle est séparée de sa famille et elle va devoir réussir à survivre. Survivre en essayant de retrouver peut-être de l'aide. Il y a déjà son chien qui a réussi à venir avec elle. Mais bien sûr, les rencontres avec les familles différentes, les peuples différents vont être assez difficiles, assez douloureuses pour elle, mais elle va devoir survivre, devoir être forte, devoir essayer de montrer un petit peu les capacités qu'elle a, parce que évidemment certains vont l'aider, d'autres vont au contraire lui nuire, parce que c'est une femme en plus, évidemment. Et puis il y a toujours le côté spiritualité, côté onirique que l'on peut retrouver dans l'univers de ce peuple inuit où les esprits sont très très présents. Et c'est ce qui marque dans la lecture de cet album. On est plongé dans cette culture inuit, on est plongé dans cet univers glacé et on n'en ressort pas tout à fait indemne parce que du coup, je trouve qu'on est très facilement happé et ça va vraiment... Ça va vraiment être impressionnant dans le graphisme, comment Jean-Paul Krasinski nous plonge dans cet univers avec son dessin semi-réaliste qui tire davantage peut-être dans le réalisme dans cet album, avec en plus des couleurs directes et c'est absolument magnifique. Il y a des planches où, alors en plus le format est assez original, il est carré, donc on est sur un album d'un type original dans sa conception, mais aussi dans sa mise en page. Et sa mise en couleur est sublime. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous happe pas mal. On est complètement dépaysé en lisant ce magnifique album qui s'appelle donc De pierre et d'os, que je vous recommande grandement. C'est donc un gros coup de cœur aussi de Bulle en Stock. De pierre et d'os de Jean-Paul Krasinski, d'après un roman déjà salué par la critique. C'est aux éditions Air Libre et Dupuis. Trois albums maintenant qui vont vous parler de choses du passé, dirons-nous, mais du passé assez récent en même temps. Café de la Gare, par exemple, on est en 1968, on est à Paris, et les co-auteurs Paul Vermersch et Inès Polosson Avec des dessins d'Inès Polosson aussi et des dialogues de Thibaut Vermeau, vont nous présenter dans cet album la montée d'un fameux théâtre qui s'appelle le Café de la Gare, enfin un café-théâtre exactement. Et tout ça, c'est dans un album paru chez Sarbacane. Donc évidemment, qui dit Café de la Gare, il y en a beaucoup qui pensent tout de suite à Coluche, à Romain Bouteille qu'il avait créé, et puis d'autres comme Miu Miu, comme Patrick Devers qui ont fait partie de cette aventure. Et c'est justement cette aventure du Café de la Gare qui va nous être racontée en suivant le personnage en particulier de Coluche au départ, Michel Colucci, qui un petit peu n'arrive pas vraiment à survivre, il n'a plus d'électricité chez lui, il galère un petit peu. Et il va voir pour être serveur dans un café-théâtre, justement. Comme il doit présenter les artistes qui vont se présenter, comme Romain Bouteille ou Henri Guibet, il va mettre un petit peu d'humour dedans. Et puis, petit à petit, comme ça, il va se faire ami avec Romain Bouteille. Et Romain Bouteille va avoir cette idée de, même un soir où tous les trois vont être un petit peu réunis en buvant des coups, ils vont se dire, tiens, pourquoi nous, on ne ferait pas quelque chose de complètement libre, complètement presque anarchique, et puis on va créer notre espace où les gens pourront venir, et nous, on pourra faire ce qu'on veut sur scène. Ce sera assez débridé, ce sera assez fou, on ne sera pas bloqué par des gens qui ne veulent pas de nous, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir cette idée d'acheter une petite boutique qui vont transformer en Café de la Gare, où chacun avait pas mal de liberté, certains venaient certains moments, certains d'autres, et puis petit à petit on va avoir des personnes comme ça qui vont arriver, comme je vous disais, Patrick Devers, Miu Miu, qui vont devenir ensuite très célèbres automatiquement. Mais on va voir aussi les égos des différentes personnes qui vont petit à petit se mettre en place. Alors c'est plutôt intéressant comme album Café de la Gare, le dessin très, très ligne claire, très simple et assez bien fait, parce que du coup on reconnaît bien les personnages, c'est agréable à lire. Moi j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de discussions, et donc il y a beaucoup de, c'est assez verbeux dirons-nous, et il est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'ils ont dit, etc. Maintenant, il faut, il m'a manqué un petit peu peut-être de mise en scène supplémentaire. Là, on est sur des planches des fois assez figées où il y a beaucoup de textes, où c'est un petit peu le petit reproche. Il y a certains moments où je me disais que c'était un petit peu trop écrit. C'était pas vraiment des dialogues comme on pouvait l'entendre de personnes plutôt qui se balançaient un peu des vannes ou se balançaient des reproches à la figure. Je pense qu'ils les auraient peut-être pas envoyés comme ça. Je sais pas. C'est moi le petit bémol que je mettrais dans cet album. Mais si vous voulez savoir comment s'est créé le Café de la Gare, évidemment, c'est une très très bonne porte d'entrée vers cet univers du café-théâtre. Café de la Gare. Aux éditions Sarbacane. La porte ouverte. Là, la porte ouverte, c'est aux éditions Glénat et c'est de Dominique Hay. Et Dominique Hay va nous présenter son parcours, comment il est devenu dessinateur de bande dessinée. Et en particulier, lorsqu'il arrive à Paris, il pousse les portes des beaux-arts, il essaye la peinture, la sculpture, mais ça ne marche pas du tout. Pas du tout, c'est un fiasco. Il va d'échec en échec. Et puis un jour, il est en 1972, il y a toute une époque où l'université devient assez... il y a l'université expérimentale de Vincennes qui va où il va être embauché. Mais là, en tant que gardien, en fin de compte, des portes, il est là un petit peu pour guider les gens. Et un jour, il y a une porte qui s'ouvre, justement, et c'est la première fois où il y a un atelier de bande dessinée. Il est animé par le plus grand, Jean Giraud, alias Moebius. Donc c'est la même personne. Et puis il y a quelques noms quand même dans les personnes qui sont là autour de la table pour apprendre avec Jean Giraud. André Juillard, Serge Letendre, Régis Loisel, François Dimberton. On est quand même sur du très bon, du très lourd et de ceux qui sont devenus des dessinateurs et des scénaristes cultes de la bande dessinée moderne. En tout cas franco-belge, et du coup Dominique Hay va petit à petit pousser la porte. Alors ça s'appelle la porte ouverte parce que justement il euh, y a, ils laissent la porte ouverte parce qu'il y en a qui fument trop et donc du coup il faut un petit peu aérer. Et c'est comme ça qu'ils découvrent ce lieu où tous les semaines il y a des cours de théâtre donnés par des cours de bande dessinée donnés par Jean Giraud. Il fait du dessin du coup Dominique et petit à petit il va écouter et puis Jean Giraud va lui dire de venir un petit peu voir autour de lui et il va devenir un petit peu le mentor de Dominique. Et Jean Giraud va le prendre un petit peu sous son aile, va l'aider. Et c'est là qu'on va voir toute son aventure, entre guillemets, parce que c'est vraiment une vraie aventure, où il va aller chez Jean Giraud, Moebius. Il arrive chez lui, en fin de compte, il repart tout de suite pour aller au cinéma, parce que Moebius avait envie de voir un film. Après, il y a la création de Métal Hurlant, on va voir Philippe Manœuvre, on va voir plein de monde. Mais c'est assez fou, c'est assez poétique aussi par moments parce que du coup, il part quand même sur des envolées un petit peu Dominique et très original dans sa façon de concevoir son récit. Des fois, c'est complètement fou et assez délirant. Et moi, j'ai bien apprécié ça parce que ce n'est pas juste du terre à terre en disant « Alors, j'ai vu lui et puis j'ai discuté de ça. » Des fois, les personnages sont, je pense, vraiment presque caricaturé. Je pense que Philippe Manœuvre, c'est quasiment ça, la caricature, même si apparemment, quand il avait des avis, ils sont très arrêtés et donc très bloqués dans sa façon de voir. Et donc, avec Jean-Pierre Dionnet, par exemple, ça passait pas toujours, alors qu'on a l'impression que ce sont un binôme qui a toujours fonctionné ensemble. Mais voilà, puis il y a plein de personnages comme ça, emblématiques des années 70-80, que l'on connaît, que l'on reconnaît. Et Dominique Hay nous présente un petit peu tout son passif et son passé de dessinateur en racontant évidemment tout ce qu'il avait fait. C'est passionnant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'aime l'histoire aussi du 9e art. J'aime les coulisses un petit peu et ça, j'ai adoré. La porte ouverte de Dominique Hay, c'est vraiment très bon. Il faut vraiment, vraiment aller découvrir, pousser cette petite porte qui va vous faire découvrir tout un univers. Alors évidemment, comme c'est de l'histoire un peu de la bande dessinée, même si c'est mis de façon assez rigolote et assez bien amené, évidemment, pour ceux qui ne sont pas passionnés par ce sujet et qui ne cherchent que de l'aventure, des westerns et ainsi de suite, c'est peut-être pas là qu'il va falloir trouver, même si vous aurez des références hein, dedans, parce qu'il y a tous ces albums, etc., qui sont présentés sans qu'ils soient évidemment dedans. Mais au moins, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il a fait, bah, ça peut être intéressant, avec un style assez Linklater, assez épuré et très agréable. Vraiment, on reconnaît tous les personnages. En plus, vraiment, c'est pas une caricature dans le visuel. Caricature, des fois, je pense plus dans la façon d'agir des personnages. Mais caricature n'est pas visuelle. En tout cas, c'est vraiment des personnages que l'on peut reconnaître, évidemment, mis dans les années 70-80. Comme à cette époque, début 80. Et donc, du coup, là, fin 72, ça commence. Et puis après, petit à petit, on avance, évidemment, avec tous les journaux qui sont arrivés. La porte ouverte de Dominique Hay, une petite bulle de bonheur, de plaisir de lecture pour ceux qui aiment l'univers de la bande dessinée. Et c'est donc chez Glénat. Et puis, un autre album chez Glénat aussi. Ça s'appelle « Mes années Harakiri ». C'est Daniel Fuchs, « Mes années Harakiri ». Exactement, c'est de Joub et Nicobi. Et du coup, on est aux éditions, comme je vous avais dit, Glénat aussi. Là, c'est un album souple, carré souple. Et c'est pareil. Là, on va plonger donc dans un autre univers encore. Et un jour, sur un salon, il y a deux auteurs donc, qui s'appellent Joub et Nicobi qui voient un vendeur de BD d'occasion. Et ils voient dans ses bacs, Charlie Hebdo, aussi il y a du Charlie Hebdo, mais il y a du Harakiri. Et puis là, il y en a un qui dit « Oh, Harakiri, c'est vachement bien, c'est notre époque ». Et puis là, il y a le vendeur qui s'appelle Daniel Fuchs, du coup, qu'on a souvent vu, enfin moi que j'ai déjà rencontré, mais sur des salons de bande dessinée, justement, qui dit « Oh putain, Harakiri, ça c'est un journal ». Et là, il va raconter à ces deux personnages, donc qui sont Joub et Nicobi, en fin de compte, comment il est rentré à Harakiri, tous les personnages qu'il a rencontrés, et le délire qu'il y avait la plupart du temps, voilà, ils étaient complètement fous. Il y a donc c'est le professeur Choron qui a lancé, il y avait Cavana, mais il y a eu plein d'auteurs connus comme Razer et ainsi de suite qui sont passés dans Harakiri. Il y avait les photos des journaux, enfin les, comment dire, les, oui, des, soit des publicités en photo avec des femmes nues souvent, ou alors même des petits romans photos qui étaient à l'intérieur d'Harakiri. On explique comment ça se passait. Souvent, c'était des filles qui faisaient soit de la pornographie, soit qui se dénudaient assez facilement pour des billets. Voilà, il y a vraiment tout un univers de journaux anarchistes où il y avait que cette voilà, les gens faisaient un peu ce qu'ils veulent. Mais le gros problème, c'est que évidemment, il fallait que financièrement, ça s'en sorte aussi. Et donc, du coup, l'équilibre n'est pas toujours évident à trouver. Et c'est ce que va raconter justement Daniel Fuchs dans son récit qui a été mis en dessin par Joub et Nicobi. C'est excellent, vraiment excellent. C'est un pareil, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup rentrer dans l'univers un petit peu de la création de la bande dessinée et de ces époques un petit peu maintenant révolues ou maintenant. Non, tout est bien bloqué, bien cadré, il faut que ça rentre dans les cases. Là, Harakiri, c'était une, comme Charlie Hebdo, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Voilà, tout le monde pouvait faire un peu ce qu'il voulait, ça allait trop loin par moment. Et du coup, bah, c'était censuré, il y avait beaucoup de polémiques contre eux. Mais eux, ils s'en amusaient, ils continuaient. Et puis, il y avait voilà, ce professeur Choron complètement délirant que l'on voit pendant toute la bande dessinée. C'est vraiment excellent. Si vous aimez ce style comme ça, comme je vous disais, avec une porte ouverte, ou le là, Mes années à Harakiri. Alors, avec Mes années à Harakiri, on est plus encore sur du dessin semi-réaliste, tirant un peu vers la caricature. Mais Mes années à Harakiri sont vraiment excellents. Donc, Mes années à Harakiri et La porte ouverte, deux albums excellents sortis chez Glénat que je vous recommande si vous aimez l'histoire du 9e art et si vous voulez le découvrir, si vous ne le connaissez pas bien en tout cas. Moi en tout cas, pour moi c'était une pépite parce que ce sont deux pépites parce que vraiment j'ai découvert plein de choses que j'ai adorées. Attention, attention, les Striges sont de retour avec La légende des Striges. C'est le tome 1 qui est sorti, ce sera un diptyque. Le premier tome s'appelle Les eaux du chaos, c'est de Corbeyran et évidemment au scénario, toujours comme tout cet univers des Striges qui mêle, enfin, où l'on découvre des sortes de vampires ailés, des grands monstres qui parsèment tout l'univers qu'a créé donc, justement Corbeyran dans différents cycles d'albums, donc comme Les Striges déjà, et puis ensuite il y a eu d'autres comme Le Maître du Jeu par exemple. Et là, ce sera Nicolas Bègue au dessin cette fois-ci, donc un nouveau dessinateur pour ce diptyque, mais toujours avec la supervision de Richard Guérino, qui est le créateur du Chant des Striges, donc le tout premier cycle des Striges. Il est toujours designer de certains personnages. Alors là, cette fois-ci, on remonte avant les époques où l'on a pu suivre l'univers des Striges. On est donc au 19e siècle, 1869 exactement. Il y a un archéologue qui s'appelle Alexandre Sardin qui arrive à mettre à jour un ensemble de sarcophages. Il y en a 7 exactement. Et il y a 7 corps à l'intérieur, mais 7 corps énormes de 5 mètres de haut et surtout qui sont enveloppé par une sorte de liquide noir qui donc apparemment leur aurait permis de se conserver. Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, du coup, c'est justement ce qu'il va essayer de comprendre. Mais un mystérieux industriel qui est aussi mécène prussien l'aborde et qui va essayer de récupérer, en tout cas de trouver, de l'aider à découvrir ce que c'est. Mais en même temps, les recherches et les trouvailles surtout de cet égyptologue va évidemment donner des envieux, va faire des envieux, et en particulier non pas que les momies, mais aussi ce fameux liquide noir. Qu'est-ce qu'il est ? Bah justement, c'est très très bien mis en scène sur ce premier tome. On est vraiment bien pris dans l'histoire. Même si vous ne connaissez pas l'univers des Striges, vous n'êtes pas obligé justement d'avoir connaissance de tout ça, parce que vous êtes pris dans une sorte de découverte archéologique, un petit peu à la Indiana Jones, avec évidemment plusieurs groupes qui veulent récupérer les différentes trouvailles. C'est tout de suite prenant, c'est bien vu, c'est simple. Justement, comme il n'y a pas de retour sur des événements qui auraient pu être mis dans d'autres albums, évidemment, là, on est sur même la préquelle, quasiment la découverte des Striges dans notre monde actuel. Et du coup, on est vraiment sur une entame simple, classique, va-t-on dire, d'un album autour de l'aventure et des découvertes archéologiques. Mais on se dit qu'il va y avoir autre chose dans le deuxième tome. Et justement, ça nous donne très, très envie de lire le deuxième tome. Surtout que le dessin est vraiment à la hauteur. Il est vraiment très bien, très beau. Un peu style Guérino, justement, qui reprend un petit peu le style. Style donc réaliste, tirant par moments sur le semi-réalisme, mais plutôt réaliste quand même, avec des belles couleurs en plus, qui mettent bien une ambiance assez ocre, sombre par moments, qui convient tout à fait à ce style de scénario et à ce style de récit. La légende des Striges, le premier tome, est vraiment une très très bonne découverte, et on a hâte de lire la fin de ce diptyque pour voir vraiment où veut nous mener Corbeyran, pour savoir comment va poursuivre les découvertes donc de ce fameux archéologue Alexandre Sardin. Donc ça s'appelle La Légende des Striges. Je crois que j'ai oublié de vous dire que c'était chez Delcourt, mais comme toute la série des Striges, en fin de compte, comme toutes les séries dérivées aussi des Striges, comme je vous disais, il y en a un petit paquet quand même. Donc Le Chant des Striges, le Maître du Jeu, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de découvertes à faire sur les Striges. Si vous ne connaissez pas ces cycles d'albums qui sont devenus maintenant des grands classiques de la bande dessinée franco-belge. La Légende des Striges, donc le premier tome, est sorti aux éditions Delcourt. Et on continue avec un thriller historique cette fois-ci. Ça s'appelle Dred Scott, New York 1893. C'est le premier tome, ce sera un diptyque aussi. C'est un scénario de Tom Graffin et Jérôme Roper, des dessins de Thibaut Descamps. Et c'est aux éditions Grand Angle, donc diffusé par Bambou. On va suivre donc Dred Scott, d'où le nom, qui est né en pleine guerre de sécession en 1863. Et cet Afro-Américain a été sauvé par un abolitionniste pendant la guerre de sécession. On se retrouve 30 ans après donc cette fameuse guerre, là on se retrouve à New York. Et il y a le chef de la police de New York qui offre une chance à Dred Scott pour devenir un petit peu son sorte de détective. Il va devoir enquêter sur la disparition d'un collier, le collier de la liberté. Et ce collier de la liberté va lui faire remonter dans son passé, parce qu'en effet, il a appartenu à Belmont, qui est l'ancien maître des parents de Dred. Mais Dred, donc ses parents étaient esclaves chez Belmont, mais Belmont était très plutôt abolitionniste, en fin de compte, à cette époque-là. Et ses parents ont même décidé d'aider Belmont lorsqu'il s'était fait attaquer. Et donc, pendant la guerre de sécession, ce fameux collier a été donc dérobé. Et là, il réapparaît. Et donc, qui l'a volé ? Il va falloir que Dred se remonte un petit peu dans son passé. Et c'est comme ça qu'on va découvrir aussi un petit peu tout son passé, de lorsqu'il était enfant, que ses parents ont été pendus. Voilà, tout ça, ça va être se remémorer un petit peu tout ça. Et puis, bah, on est quand même post-guerre de sécession, mais pour autant, la guerre a laissé beaucoup de traces, Et puis, évidemment, les sudistes sont toujours présents, et ceux qui sont toujours contre pour l'esclavage et contre donc l'émancipation des Afro-Américains, évidemment, vont toujours être là. C'est toujours sous-jacent, même le Ku Klux Klan, alors que normalement, il était censé disparaître. Mais il y a encore des réminiscences de tout ça. Donc, on est dans un thriller historique autour de cet Afro-Américain Dred Scott, vraiment bien mené. Des fois, au départ, un petit peu difficile de rentrer dedans, mais une fois qu'on a bien compris qui était qui, on est vraiment lancé. C'est en fin de compte les passages d'une époque à une autre, c'est-à-dire de la jeunesse de ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession et de nos jours, du jour du récit, on va dire. Et là, du coup, on a des fois des petites difficultés à se remettre un petit peu dans cette timeline. Mais en fin de compte, ça reste très, très lisible et puis très agréable en plus à lire. On a envie d'avoir la suite, on a envie de comprendre ce qui va se passer. Et puis, on voit les humanistes et on voit évidemment ceux qui sont contre justement le fait que les Afro-Américains puissent vivre en toute liberté dans ce nouveau pays, entre guillemets, où justement ils ont été libérés. Donc, c'est chez Grand Angle, ça s'appelle Dred Scott, et c'est donc un thriller qui sera en 2 tomes. On va continuer avec La Petite Mort, La Boutique des Erreurs, c'est de Davy Mourier, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Humour de Rire. La Petite Mort, c'est justement l'enfant de la mort, et du coup, il doit normalement reprendre le flambeau. Et il n'a pas du tout envie, lui, de devenir faucheuse. Et du coup, il veut lui devenir fleuriste même. Donc, il est vraiment pas du tout dans son existence. Il ne devrait pas être parmi dans cette famille. Mais on est à mort de père en fille ou de père en fils. Et évidemment, il va falloir continuer un petit peu ça. Et dans ce nouvel album, La Petite Mort est au collège, lorsqu'elle y arrive, tout le monde lui demande des autographes, tout le monde va lui demander des choses. Elle est en gros devenue un peu une petite star. Et pourquoi ? Pourquoi cette récente célébrité ? Un magazine dont il est le héros, dont La Petite Mort est le héros. Et du coup, il va essayer de comprendre pourquoi, comment c'est arrivé. Et c'est toujours très drôle. Alors, c'est toujours en façon strip un petit peu. Des fois, il y a des pages complètes. Mais Davy Mourier casse complètement les codes, en fin de compte, à chaque fois de ses BD. Parce que dès qu'il a une idée qu'il veut nous soumettre, il va choisir un petit peu un système graphique pas différent. Mais en tout cas, ça peut être très bien. Juste une page avec une illustration. Et ça peut être donc une fausse affiche de cinéma, ça peut être une fausse affiche de livre, ça peut être plein de choses. Et puis des fois, c'est des strips très rapides sur 3 cases. Des fois, c'est des planches plus complètes avec même des fois 2-3 planches. Et en fin de compte, la lecture est toujours nouvelle, toujours intéressante, toujours différente. Et c'est ce que j'apprécie aussi chez Davy Mourier, et en particulier dans Petite Mort. Parce que le dessin est simple, paraît simple en tout cas, alors qu'il n'est pas si simple que ça, mais... Il est très recherché graphiquement, mais en même temps, c'est simple dans la vision de ce que l'on a à la fin. Parce que du coup, ça paraît simple et c'est vrai que c'est très efficace par contre. Les personnages sont toujours drôles. Et puis, il y a pas mal de recherches de philosophie, j'allais dire, mais en tout cas de penser, de comment on doit penser quand on est dans une famille où tout vous est déjà tracé, que vous n'avez pas le choix. Et que l'on veut vraiment s'émanciper un peu de tout ça. Tout ça, c'est vraiment très intéressant, avec beaucoup d'humour. Évidemment, Davy Mourier est très, très connu pour ça. Donc, La Petite Mort, La Boutique des Erreurs, c'est encore un excellent album de Davy Mourier. Moi, j'adore cet auteur, j'adore cette série, mais pas que ça. J'aime vraiment tout ce qu'il fait. J'adore aussi aller voir un peu sur Internet, si vous voulez. C'est dans Bad News, par exemple, ou dans son autre émission qui s'appelle Culture Z. Si vous aimez tout ce qui est jeux rétro, consoles rétro, etc., mais aussi jouets rétro plutôt, tout ça, vous allez découvrir plein de choses. Voilà, c'est vraiment un humain que j'aime beaucoup et qui est vraiment un artiste complet. Et là, dans sa petite mort, vraiment à découvrir absolument. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par celui-là, ça pourrait aller, mais en même temps, il vaut mieux commencer par les premiers qui sont... Alors, dans la première page de cet album-là, justement, il y a dans quel ordre lire les différents albums. Parce qu'il y a aussi la petite mort, il y a la... voilà, enfin, il y a plusieurs albums et en fin de compte, ils sont... Si vous les suivez dans l'ordre, ça devrait aller, mais par contre, il y en a certains qui sont un petit peu en décalé par rapport à d'autres, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Moi, je les ai lus à leur sortie à chaque fois et à chaque fois, j'ai pris un plaisir fou à lire ces albums. Ça s'appelle donc La Petite Mort et c'est aux éditions Delcourt, comme d'habitude. Dooms et Sora présente Les Pierres du Cauchemar. C'est le tome 3 qui est sorti. C'est de Dooms et Sora, des dessins de Dreamy et c'est aux éditions Glénat. Alors, on reste sur YouTube. Je vous parlais de Davy Mourier. Là, on va parler de Dooms et Sora qui sont... non pas en couple dans la vie, mais qui sont deux amis youtubeurs, une fille, Dooms et Sora, donc un garçon. Et depuis longtemps, ils font des vidéos ensemble. Ils sont amis, ils ont souvent travaillé ensemble. Maintenant, ils travaillent un peu moins parce que Sora a déménagé au Japon. Et du coup, évidemment, ils ont beaucoup de succès, ce qui fait que ça a amené une bande dessinée où là, ça va être complètement de l'aventure. Là, on est vraiment dans un passage dimensionnel où les deux héros vont partir à différentes époques et ils vont devoir retrouver des pierres du cauchemar dans les différentes époques et surtout dans les différents styles où ils vont arriver. Je vous explique. Les deux héros qui, dans le premier tome, donc, ont découvert un coffre, vont l'ouvrir et là, ils vont être projetés dans différents mondes parallèles. Et les cinq pierres qui étaient dans le coffre sont parties dans cinq mondes parallèles différents. Et il va falloir retrouver à chaque fois, donc dans chaque monde parallèle, la pierre. Donc dans le premier, par exemple, ils étaient dans un univers style Internet avec... de Google, Facebook et ainsi de suite, mais évidemment parodié, et c'est ça qui était plutôt drôle. Dans le deuxième, il se retrouve dans un univers maritime, mais surtout un univers de pirates. Et là, ça va être encore autre chose à faire découvrir. Dans ce troisième tome, donc, qui vient de sortir chez Glénat, ils vont se retrouver à devoir... ils ont l'impression de rentrer chez eux, parce que c'est chez eux, il y a tout l'univers moderne comme on les a, etc. À part que il y a des zombies partout. Et là maintenant, on se retrouve dans un autre univers encore une fois, où il va y avoir les clichés un petit peu de la chasse aux zombies, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que les trois tomes offrent complètement des univers différents, ce qui fait que l'aventure, à chaque fois, est pleine de rebondissements. Les deux personnages sont plutôt bien écrits, ont plutôt des dialogues assez intéressants. Le dessin est très dynamique, style manga, et ça fonctionne parfaitement. Honnêtement, c'est une vraie bonne lecture que j'apprécie plutôt, plutôt positivement. C'est vraiment quelque chose qui est à signaler. Souvent, les BD tirés des youtubeurs, c'est un petit peu plan-plan, c'est un petit peu trop basique. Là, il y a un effort vraiment sur le scénario et sur les personnages qui sont assez creusés, assez fouillés, et ce qui permet vraiment d'apprécier, même pour ceux qui ne connaissent pas obligatoirement Sora et Dooms, leurs univers. Parce que ça pourrait être, au lieu de Dooms et Sora, on pourrait très bien mettre deux autres personnages, Jean-Paul et Marie, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça marcherait pareil, parce que l'univers, le fait de passer dans des époques différentes, dans des univers parallèles, c'est aussi connu. Mais les aventures, à chaque fois, nous apportent donc son lot d'originalité. À voir sur le quatrième et cinquième tome, qui doivent arriver, évidemment, parce qu'ils doivent récupérer cinq pierres. Donc, évidemment, vous avez bien compris que là, pour cette troisième pierre, on est dans un monde de cauchemars, en particulier avec des zombies partout. À vous de découvrir Dooms et Sora avec Les Pierres du Cauchemar, ce troisième tome. Le Royaume, le tome 10 est sorti, ça s'appelle Blanche Fleur, tome 2 sur 2. C'est de Benoît Féroumont, évidemment, et c'est aux éditions Dupuis. Sans que vous le sachiez peut-être, j'ai déjà parlé de cet album. Je m'explique. Le Royaume, c'est une série donc, qui compte maintenant 10 tomes, et en fin de compte, et un tome hors série, qui s'appelle Le Royaume de Blanchefleur. Et c'est donc un royaume où on va suivre Anne, qui est une tavernière, dont le forgeron est fou amoureux d'elle, mais elle n'est pas du tout, elle veut garder sa liberté, elle veut garder être complètement libre et indépendante. Et donc, on va suivre donc, toutes ces aventures de Anne et puis du royaume, avec les différents personnages que l'on va croiser, et des petits oiseaux en plus qui vont nous parler et qui vont surtout mettre beaucoup de blagues dans cet univers. C'est vraiment super frais, super agréable, très dynamique, vraiment une excellente série. Et il y a quelque temps était sorti donc Le Royaume de Blanchefleur, qui était hors série en fin de compte, avec une grande histoire sur deux fois plus de planches, 90 planches à peu près, d'une histoire du royaume, où on va suivre le mariage de la princesse Cécile dans ce royaume. Et donc Anne, évidemment, est toute contente. Elle, en plus, c'est sa meilleure amie, la princesse. En plus, le roi, qui est le père de Anne, de Cécile, est vraiment aussi, il a pris un petit peu à protéger Anne aussi en même temps. Et il l'a prise un peu sous son aile, mais il y a la reine. La reine qui est très jalouse et qui déteste Anne, et donc elle va comploter contre elle. Et c'est ce qu'on voyait dans Blanchefleur, avec en plus d'autres choses à l'intérieur dans cette histoire. Et quand je vous dis que je vous l'avais déjà raconté, j'avais déjà montré et adoré le royaume de Blanchefleur. Et bien là, du coup, le 9e et 10e tome reprennent, pour les mettre en fin de compte dans la collection complète des royaumes, pour compléter le 9 et 10, c'est-à-dire que le royaume de Blanchefleur a été découpé en deux et est devenu donc le royaume 9 et le royaume 10, donc Blanchefleur 1 et Blanchefleur 2. Alors le premier s'appelle Le complot de la reine et le deuxième Blanchefleur. Et donc du coup, en fin de compte, c'est la même histoire si vous avez déjà le hors-série un petit peu du royaume de Benoît Féroumont, c'est exactement la même histoire, mais c'est un plaisir. Donc du coup, vous pouvez relire l'album sous deux formes différentes, en fin de compte, soit un format un peu plus grand, si je me rappelle bien, qu'il est un petit peu plus haut. Et puis par contre, double pagination pour pouvoir avoir cette histoire inédite un petit peu. Ou alors reprendre le tome 9 et le tome 10 qui donc se suivent et qui font deux albums séparés mais qui font la même histoire. Donc voilà, Le Royaume, c'est toujours aussi bien. De toute façon, lisez Le Royaume, peu importe sous quelle version, vous allez prendre du plaisir, un énorme plaisir, surtout le dessin style un peu cartoon mais un petit peu réaliste aussi, enfin semi-réaliste cartoon, on va dire cartoonesque un petit peu de Benoît Féroumont. Il fait merveille, c'est vraiment absolument génial parce qu'il arrive à faire passer et des émotions en même temps beaucoup d'humour, parce que évidemment son style graphique nous propose un petit peu un style dessin animé qui est parfait pour ce style de récit, surtout dans les moments de comment dire, où ça s'anime pas mal dans l'album. Donc Le Royaume, c'est génial, c'est vraiment une série qui est vraiment à découvrir, familiale en plus, ce n'est pas que pour les enfants, au contraire, c'est vraiment familial, et ben, je vous le recommande grandement. Et puis si vous lisez toute la série, vous aurez le 9 et le 10 qui seront à suivre. Et donc là, la deuxième partie est tombée, est sortie aux éditions Dupuis. Donc ça s'appelle Le Royaume, c'est une série à absolument ne pas manquer. Le premier tome, autrement d'un hiver sans fin, est sorti. C'est de Mila Vestin et la série complète s'appelle Evie et les Esprits du Nord et c'est sorti aux éditions Sarbacane. Grâce à cet album de bande dessinée, vraiment fait plutôt alors jeunesse, mais pareil familial comme l'album précédent, comme la série précédente, on va se plonger dans un univers de bande dessinée finlandaise. En effet, Mila Vestin est une Finlandaise qui nous offre un récit un petit peu onirique, très, très original, où on va suivre Evie qui va accompagner donc sa famille pour chez sa grand-mère et vont trier les affaires de son grand-père qui est récemment disparu. Elle va se promener un petit peu autour de la maison et en particulier près de la rivière. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il neige alors qu'on est en plein mois de juin. Normalement, ce ne devrait pas être le cas. Évidemment, le printemps aurait dû arriver. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il neige. Elle est là en bonnet sous la neige et elle se pose des questions comme tout le monde. En fin de compte, tout le monde se dit, tiens, il y a un petit problème. Et lorsqu'elle arrive près de la rivière, elle va rencontrer un esprit. Elle est capable de le voir. Lui-même est surpris en disant, mais tu me vois t'es arrivé à me voir? Alors, c'est l'esprit de l'orge qu'elle va rencontrer. Et elle va donc pouvoir discuter avec lui. Et lui va lui expliquer que voilà, il y a plusieurs esprits dans la forêt, dans le monde, et que l'esprit du printemps a été retenu prisonnier par une sorcière. Pour pouvoir faire arrêter l'hiver et que le printemps revienne, il va falloir aller le libérer. Alors du coup, évidemment, Evie n'écoute que son courage et va aller dans les profondeurs de Tuonela, un monde peuplé de créatures magiques. Et puis, elle va essayer de trouver une solution à ce gros problème qui peut-être changerait du coup la face de cet hiver interminable. Un hiver sans fin, c'est vraiment un conte tiré, je pense, ou alors en tout cas inspiré du conte et légende justement nordique, finlandaise, parce que l'autrice est finlandaise, et qui nous plonge justement dans un univers onirique que l'on connaît peut-être moins, parce que les esprits de la forêt, etc., on connaît en Bretagne, par exemple, avec les korrigans, avec les choses comme ça. Mais là, les esprits de la forêt, dont l'esprit de l'orge et ainsi de suite, qui ont chacun vraiment une personnalité, du coup, c'est très agréable à lire. On attend la suite. C'est vraiment vivant. Le dessin est assez fin, avec beaucoup de détails et en même temps très dynamique aussi. Vraiment, il est agréable à voir. Agréable à voir, il est apaisant, et puis surtout, comme on a beaucoup de couleurs, peu de couleurs en fin de compte, on a des couleurs, mais qui vont ressortir, parce que le blanc de la neige, évidemment, va beaucoup être mis en avant. En tout cas, un hiver sans fin chez Sarbacane est vraiment très agréable à lire et à découvrir. Donc la BD finlandaise, je ne pensais pas en avoir lu, je crois. Et du coup, ça m'a vraiment plu et j'ai envie d'avoir la suite assez rapidement. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En tout cas, c'est donc autour de la mythologie finlandaise, un hiver sans fin aux éditions Sarbacane. Et puis on va finir ces BD à découvrir avec Constance et les ombres. C'est un peu plus ancien parce que du coup, c'est sorti il y a un petit moment maintenant, mais le tome 1 était vraiment très bon, donc j'avais envie de vous en parler. Ingrid Chabert au scénario, Louisa Russo au dessin, et c'est paru, donc, comme je vous disais, aux éditions Dupuis. Constance vit dans une riche demeure au début du XXe siècle, mais elle vit pas très heureuse. Pourquoi ? Parce que ses parents sont inquiets pour sa santé. Pourtant, elle paraît totalement excellente, sa santé, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec son grand frère, qu'on devinera petit à petit. Et donc, du coup, elle est obligée de rester dans l'isolement dans cette maison. De temps en temps, la femme de chambre lui permet de sortir, mais elle se fait tout de suite houspiller et gronder par ses parents. Et puis, Elle a la possibilité, Constance, de voir malheureusement des ombres, et des ombres en particulier, des loups spectraux qui ont l'air d'être très... qui ont envie apparemment de petit à petit s'approcher d'elle et peut-être de lui faire du mal. Mais heureusement, elle a un gentil monstre qui lui aussi une sorte d'ombre qui s'appelle Horace et qui veille sur elle depuis sa naissance. C'est la seule à pouvoir le voir et donc ils vont reprendre contact au bout d'un moment parce que justement les loups sont de plus en plus proches de Constance. Alors, déjà l'idée est sympa et agréable à suivre. Le dessin est très très beau et très bien, très fin, très bien dessiné, très agréable à voir. Après, la petite frustration que j'ai eue, moi, en lisant ce premier tome, c'est que, voilà, il y a toute une mise en place qui est faite. On comprend bien qui est le personnage de Constance. On voit bien qu'elle est très enfermée et que même enfermée aussi émotionnellement. C'est-à-dire que ses parents, pas la rejettent, mais en tout cas, la bloquent complètement pour... ils n'ont aucune démonstration de leur affection, s'ils en ont. Et en fin de compte, voilà, on se retrouve à voir cette présentation-là et arriver à la fin de l'album, quasiment. Parce qu'on n'a pas du tout de piste de qu'est-ce qui va se passer, pourquoi les loups sont là, qu'est-ce qui va vraiment advenir de Constance. Alors certes, ça va être en plusieurs tomes, mais voilà, ça avance peut-être un petit peu doucement, mais en même temps, c'est super agréable à lire. Donc, on passe souvent outre. Et puis, on aurait bien aimé que ça aille plus vite, en fin de compte, parce qu'on est quand même agréablement charmé par la petite Constance qu'on a envie un petit peu d'aider. Et puis, en même temps, Horace, qui est assez drôle et très bien vu et très bien dessiné, qui a un caractère, même s'il fait peur graphiquement, dirons-nous, physiquement, il est plutôt bienveillant et c'est ce qu'on apprécie chez lui. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir un peu plus encore dans ce premier tome, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai agréablement été surpris par ce Constance et les ombres aux éditions Dupuis, ce premier tome qui vraiment a été une très très agréable lecture. C'est comme ça que ça va se conclure ce Bulle en stock spécial BD. Je vous retrouve très vite donc pour un nouveau Bulle en stock express. Maintenant il s'appelle express tout le temps, mais parce qu'on va faire à chaque fois donc un thème différent. Le prochain, ce sera sans doute du jeu de société. Allez, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre page Facebook Bulle en stock avec un S évidemment, et sur aussi la mienne, page Facebook Steven Bescon. Tout simplement, et puis autrement, allez sur radiograndparis.fr. Merci à Nicolas Godin pour tout ce soutien incommensurable, et à très très vite pour de nouvelles aventures en Bulle et en stock. Allez, à très bientôt, merci d'avoir écouté l'émission, à la prochaine. Bulle en stock express.